à M. Arnold Veve, qui est le responsable, il y a écrit droit public, je suppose peut-être que c'est du département droit public, voilà, au secrétaire général de SFR, qui va nous faire un exposé sur les réseaux d'initiatives publiques.
Merci beaucoup. Effectivement, j'ai la lourde tâche d'essayer de vous résumer en quelques minutes ce dossier assez large que concernent les réseaux d'initiatives publiques. Je vous propose de procéder de la manière suivante. Ça va être d'articuler finalement cette présentation autour de quatre grands thèmes. Tout d'abord, un historique des réseaux d'initiatives publiques, qu'on appelle par ailleurs réseau ouvert d'initiatives publiques. Dans le vocable, il faut savoir que ça concerne la même chose. Ensuite, nous verrons ensemble les principaux objectifs des RIP. Dans un troisième temps, la contractualisation et finalement ce qui concerne le mode de gestion des réseaux d'initiatives publiques. Et pour finir, une petite ouverture, même si c'est évidemment quelque chose qui mériterait d'y consacrer une journée entière, voire plusieurs, les enjeux actuels et futurs des RIP. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite par l'historique des réseaux d'initiatives publiques. À titre de rappel, la loi a introduit en 2004 l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales dans le CGCT. Cet article définit les conditions d'intervention des collectivités dans le secteur des communications électroniques. Celles-ci peuvent donc, à partir de 2004, soit établir des infrastructures et des réseaux et les exploiter en exerçant une activité d'opérateur dans le respect des principes d'égalité et de libre concurrence. On est donc là sur une mission finalement sur le marché dit de gros, soit intervenir auprès de l'utilisateur final mais sous certaines conditions. Là on est plutôt donc orienté vers le marché de détail, et cette hypothèse vise donc les territoires sur lesquels un constat préalable d'insuffisance des initiatives privées a été effectué par les collectivités. Ce qui en pratique concerne souvent les communes rurales visant à couvrir les zones blanches du haut débit ou du très haut débit. Voilà, donc c'est pour ce qui concerne, très rapidement résumé, la genèse finalement de l'article 1425-1, c'est bien ça qu'il faut retenir. De nombreuses collectivités se sont très rapidement saisies de ce dispositif original. Il faut noter que c'est une compétence facultative des collectivités qui autorise donc sous certaines conditions une intervention publique dans un secteur concurrentiel. Et c'est bien là tout le nœud du problème, c'est que les collectivités sont amenées à intervenir dans un secteur concurrentiel. Depuis l'ouverture en effet du secteur à la concurrence en 1997, aucun opérateur, y compris l'opérateur en charge du service universel, n'a d'obligation en matière d'internet haut débit ou de desserte des territoires en fibre optique. À proprement parler, il n'en a pas vraiment. Donc d'un point de vue historique, on peut également noter qu'une certaine forme de RIP avait déjà vu le jour avant 2004, pour être totalement complet, via les réseaux câblés, qui peuvent être considérés comme certains, comme une certaine forme de réseau d'initiative publique. De nombreuses conventions ont en effet pu être signées entre les collectivités territoriales et les câbles opérateurs à partir des années 80. Que ce soit sous forme de délégation de services publics, de conventions d'occupation du domaine ou autres. Il y a eu également des conventions sui generis, dans le cadre notamment des plans câbles ou des réseaux dits nouvelles donnes. Voilà. Donc, pour mémoire, l'économie des câbles opérateurs était historiquement fondée sur la diffusion et la distribution audiovisuelle. Les services offerts sur le réseau câblé se limitaient donc à l'origine à la diffusion de la radio et de la télévision aux abonnés et aux immeubles collectifs. Puis, les réseaux câblés ont été mis à niveau à partir des années 90, plutôt même fin 90, pour fournir des services de communication électronique. Et ainsi, les câbles opérateurs se sont positionnés sur les marchés de l'accès Internet en 1997, puis de la téléphonie. Quoi qu'il en soit, les RIP, tels que nous les étudions aujourd'hui, sont ceux qui s'inscrivent dans le cadre de l'article L1425-1 du CGCT. Ceci étant rappelé, on peut essayer de résumer de manière très rapide les différents objectifs des réseaux d'initiative publique. Évidemment, les interventions des collectivités territoriales au titre de l'article L1425-1 du CGCT peuvent poursuivre plusieurs types d'objectifs en fonction du niveau de couverture de leur territoire et de l'intensité de la concurrence qu'il y a sur celui-ci. Les objectifs, évidemment, évoluent dans le temps, mais restent toujours attachés à une logique d'aménagement du territoire. Je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer un petit peu plus tard. Quelques objectifs généraux et non hiérarchisés, j'insiste bien là-dessus, peuvent être évoqués. Tout d'abord, la desserte des zones d'activité. Depuis l'éclatement de la bulle Internet, les opérateurs alternatifs professionnels avaient ralenti assez considérablement leurs investissements dans des boucles locales en fibre optique. Et les collectivités ont donc pris le relais pour que le haut débit et le très haut débit soient mis à la disposition des entreprises dans les meilleures conditions techniques et tarifaires. La desserte des zones d'activité a été très tôt à l'ordre du jour des projets locaux, et la fibre pouvant être amenée en entrée de zone d'activité ou jusqu'à la parcelle. En renforçant le niveau de service et en abaissant le prix pour la clientèle professionnelle, il s'est agi pour les collectivités territoriales de renforcer la compétitivité des entreprises locales et de manière plus globale l'attractivité du territoire pour attirer les entreprises. Il y a un point également qu'il faut relever par rapport à cette desserte des zones d'activité, c'est l'objectif un peu plus global de favoriser le développement d'opérateurs locaux. Deuxième objectif, toujours, et j'insiste là-dessus, qui n'est pas hiérarchisé par rapport aux autres, la couverture des zones blanches du haut débit ou du très haut débit. Naturellement, c'est probablement le premier objectif qui vient à l'esprit, et ça a été dès l'origine un sujet de préoccupation naturelle pour les territoires. Et plusieurs technologies peuvent être mobilisées et utilisées à cette fin, qu'elles soient hertzienne terrestre, par exemple le Wi-Fi, le WiMAX, filaire, les exemples par exemple avec les NRA zones d'ombre qu'on a pu appeler ainsi, ou de type satellitaire. Voilà. Donc certains projets ont pu être menés de manière autonome par des communes ou des agglomérations, mais le plus souvent il s'agit d'initiatives de départements ou de conseils régionaux dans le cadre de réseaux d'initiatives publiques. On peut relever que sous l'action conjuguée de l'État, des collectivités et des partenaires privés opérateurs, les zones blanches tendent à être résorbées, notamment grâce à la complémentarité des différentes technologies que j'ai pu évoquer. Troisième objectif, peut-être qu'on peut rappeler également concernant les réseaux d'initiatives publiques, c'est la montée en débit et le développement du très haut débit. Donc très rapidement, après l'adoption de l'article 1425-1 du CGCT, la question de la montée en débit dans les territoires est devenue une préoccupation forte dans le contexte de la généralisation du haut débit sur le territoire et de l'évolution des usages et les besoins en très haut débit. Donc une réflexion globale a été menée très rapidement sur l'apport des réseaux de télécom dans l'attractivité d'un territoire. Ça, on l'a déjà évoqué et je pense que ça sera également vu derrière. Et l'opportunité de disposer d'un réseau de fibre optique irriguant au plus près les utilisateurs pour permettre un saut technologique et répondre ainsi à l'évolution des usages exigeant des débits importants, difficilement satisfaits par la technologie de base qui existait dans les années 2000, à savoir la technologie DSL. Ceci étant rappelé au niveau des différents objectifs des réseaux d'initiatives publiques, on peut s'attacher à décrire les formes juridiques des réseaux d'initiatives publiques pour comprendre la manière dont les objectifs qu'on a pu voir à l'instant ont été formalisés contractuellement et ce qui revient finalement à étudier le mode de gestion des réseaux d'initiatives publiques. Les compétences octroyées par l'article L1425-1 inscrivent l'action des collectivités dans un secteur ouvert à la concurrence. C'est encore une fois un élément important à retenir. L'intervention des collectivités doit donc s'inscrire d'une part dans le respect des règles concernant la commande publique en milieu concurrentiel et d'autre part dans la continuité des objectifs d'intérêt général assignés par les élus locaux à cette intervention. Très concrètement, au niveau de la contractualisation et du mode de gestion, on relève deux grandes catégories. On a tout d'abord la gestion directe par la collectivité territoriale. Dans ce cas, la collectivité peut privilégier le mode de gestion directe via la création d'une régie. Il existe différentes formes de régie, on n'y reviendra pas forcément. Mais pour exploiter un réseau, la collectivité ne peut en pratique opter pour la régie que si elle met en place une entité dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément au principe de séparation entre l'activité d'opérateur et l'octroi des droits de passage sur le domaine public tel qu'énoncé par l'article 1425-1. Ces régies prennent donc majoritairement la forme d'un établissement public local. L'exploitation en régie permet à la collectivité de conserver une forte maîtrise du service public, mais implique, vous voyez tout de suite la limite de l'exercice, qu'elle se dote de moyens humains et matériels nécessaires, et surtout qu'elle envisage d'assurer entièrement la responsabilité du service public. La régie personnalisée est ainsi un système complexe à mettre en place et ne semble pas le plus adapté aux technologies de l'information et de la communication, dont le caractère changeant et innovant requiert par définition un haut niveau de technicité et induit forcément des risques. Si certaines collectivités, essentiellement urbaines, ont parfois privilégié l'exploitation en régie afin de garder la maîtrise complète du projet. On a pu constater rapidement que, en pratique, la gestion déléguée à un opérateur privé était la solution la plus souvent retenue. On en arrive donc à la deuxième possibilité de mode de gestion, qui est celle finalement qui a retenu le plus souvent les collectivités territoriales, qui est la gestion déléguée, qui présente, donc, comme on peut le déduire, l'avantage de faire intervenir un opérateur tiers disposant des compétences nécessaires pour assurer l'exploitation du réseau et en assumer le risque. Et le premier type de montage privilégié a été très rapidement la délégation de services publics, qui en pratique donc a représenté l'essentiel des gestions déléguées en matière de haut débit puis de très haut débit. Pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les contrats administratifs, une DSP est un contrat par lequel une collectivité confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un tiers, qui se rémunère de manière substantielle sur les résultats de l'exploitation du service. Dans ces différents types de montage DSP, il y a évidemment la dichotomie classique entre la concession et l'affermage. Dans une concession, le délégataire se voit confier à la fois la construction et l'exploitation du réseau, tandis que dans un affermage, seule l'exploitation du réseau est à la charge du délégataire, le réseau étant préalablement établi par la collectivité via, par exemple, un marché de travaux. De manière générale, donc, la DSP apparaît adaptée lorsque la dimension commerciale du projet de réseau d'initiative publique est importante, c'est-à-dire à la fois lorsque des opérateurs sont susceptibles d'être clients du réseau et d'apporter des revenus pouvant équilibrer le projet, mais aussi lorsqu'il existe un risque qui peut être de deux ordres. Un risque tout d'abord concurrentiel, par exemple un réseau concurrent qui baisse ses prix de gros ou un nouveau réseau qui s'établit. Et également un risque technologique, telle qu'une technologie qui ne serait pas compatible avec celle d'un opérateur client, le mot client étant peut-être mal utilisé étant donné qu'il s'agit d'un usager, donc d'un opérateur client usager potentiel. Dans la pratique, donc, la délégation de services publics a été le mode le plus privilégié pour la gestion déléguée des réseaux d'initiative publique. Par ailleurs, on a pu noter que des contrats de partenariat, PPP, ont été parfois lancés sur certains réseaux d'initiative publique. Historiquement, on avait pu relever les premières expériences avec l'Auvergne ou la Meurthe-et-Moselle, qui ont été a priori concluants. Aujourd'hui, si l'appel à des montages contractuels globaux de type DSP, incluant la construction et l'exploitation, donc sous forme concessive ou PPP, reste dominant sur les projets d'orientation classique, on note une distinction de plus en plus fréquente, notamment sur des projets de couverture globale de fibre optique, FTTH, entre d'une part la phase de construction et d'autre part la phase d'exploitation, commercialisation. Cette distinction entre ces deux étapes clés des réseaux d'initiative publique présente l'avantage, très rapidement, d'une part de répondre aux contraintes de ce type de projet, avec une maîtrise des montants d'investissement et un étalement des travaux, et également l'avantage d'assurer à la collectivité une maîtrise du déploiement de son réseau au niveau des coûts et du phasage des différents travaux. Dans ce cas, le réseau est déployé sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité. L'exploitation est ensuite réalisée soit en affermage, soit en régie. Par exemple, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avait fait ce choix historiquement. Pour votre totale information, SFR Collectivité, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui devant vous, filiale de SFR sur les réseaux d'initiative publique, s'est positionnée historiquement sur les DSP, PPP, lancés par les collectivités territoriales. On dénombre plus d'une vingtaine de DSP gérés aujourd'hui par SFR Collectivité, seuls ou avec d'autres partenaires, que ce soit sur le département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté urbaine de Bordeaux, en Alsace, pour ce qui concerne les DSP haut débit traditionnels. Un dernier point important concernant la contractualisation, quel que soit le mode de gestion retenu, le réseau d'initiative publique propose différents types de services à ses usagers. Comme tout service public, ces services doivent être proposés de manière non discriminatoire et transparente. Dans le cas, par exemple, d'un RIP ayant une activité d'opérateur et intervenant donc sur le marché de gros, les usagers de la DSP sont alors des opérateurs fournisseurs d'accès, tels que Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom, mais également les fournisseurs d'accès locaux, et peuvent contractualiser dans le cadre d'un catalogue de services inhérent à toute DSP, concernant par exemple la mise à disposition d'ouvrages de génie civil, des services de connectivité optique, des services d'accès au débit, des services d'hébergement, etc., etc. Voilà, donc un catalogue de services qui est systématiquement validé avec le délégant, la collectivité territoriale, dans des conditions non discriminatoires et transparentes. Après avoir évoqué ces différents points du mode de gestion des réseaux d'initiative publique, on peut s'attacher maintenant à essayer très rapidement de résumer finalement les enjeux actuels et futurs des réseaux d'initiative publique. On s'en doute, l'évolution des usages tant sur le marché professionnel que sur le marché grand public fait de la montée en débit, avec un passage du haut débit au très haut débit, un enjeu majeur des collectivités territoriales. C'est tout à fait normal. Et une nouvelle fois, cette prise en compte des nouveaux usages est essentielle pour les collectivités et l'État, notamment en termes d'attractivité des territoires en France. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le programme national très haut débit, s'inscrivant dans le cadre du grand emprunt, a été mis en place. Or, le caractère stratégique du très haut débit, combiné au fait que le déploiement des nouvelles infrastructures de télécom nécessite de lourds investissements, pour mémoire, on raisonne ici en milliards d'euros, l'un des principaux enjeux est, d'une part, de permettre à la France et ses territoires de rester en pointe dans le déploiement des réseaux haut débit et très haut débit, et d'autre part, d'assurer, et c'est là l'enjeu principal sur lequel je vous propose de nous focaliser quelques instants, d'assurer une cohérence entre les initiatives publiques, donc les RIP, et les initiatives privées. Les initiatives publiques, via les RIP, font l'objet d'un certain nombre de documents. Sans revenir dessus, il y a des schémas d'aménagement numérique qui sont élaborés au niveau des collectivités territoriales. Les partenaires privés également contractualisent entre eux. On va voir un peu plus dans quel cadre. On peut noter l'accord qui a pu être passé entre SFR et Orange, par exemple, en novembre 2011, qui vise à déployer la fibre sur les zones dites moyennement denses d'ici 2020, avec 11 millions de prises FTTH, fibre optique, qui seront déployées avec 80% pour Orange, grosse maille, et 20% pour SFR. Pour mémoire, trois zones structurellement différentes avaient été identifiées pour les déploiements très haut débit. Tout d'abord, dans le haut du pavé, si je puis dire, les zones très denses, essentiellement composées des grandes agglomérations françaises avec environ 6 millions de logements. Sur ces zones, les réseaux d'initiatives publiques n'ont a priori pas vocation à être lancés, même s'il existe des exceptions. Ensuite, on a pu identifier les zones moyennement denses, donc les ZMD, composées des villes moyennes et de la grande banlieue parisienne, ce qui représente plus de 11 millions de logements, ce qui avait été identifié en tout cas à l'époque, de plus de 11 millions de logements. Et sur ces zones, donc le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a imposé des accords de mutualisation pour limiter les redondances d'investissement. Et dans ce cadre, donc, SFR et Orange, les deux plus gros acteurs du secteur, ont, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure et comme vous l'avez sûrement entendu par ailleurs, été invités à se rapprocher pour optimiser leur déploiement. Et c'est dans ce cadre qu'un accord a été passé entre les deux plus gros opérateurs sur les déploiements de la fibre. Sur ces zones moyennement denses, des RIP ont, en intégrant ces zones, été lancées également et vont être lancées. Dernière catégorie, qui est peut-être la catégorie la plus naturelle pour les réseaux d'initiative publique, même si ce n'est pas forcément celle où elles se positionnent de manière automatique, c'est les zones peu denses, donc les zones blanches, finalement, qui représentent, en tout cas c'est ce qui avait été identifié à l'époque, comme environ 40% du territoire avec des mécanismes d'aide aux collectivités pour lancer des réseaux d'initiative publique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si ces différentes catégories ont été depuis quelque peu remises en cause, l'enjeu essentiel des RIP est aujourd'hui de se coordonner avec les opérateurs privés sur le déploiement des territoires. SFR, donc, en tant qu'investisseur privé, a, par exemple, engagé une démarche de contractualisation avec les collectivités territoriales concernées pour déterminer ensemble d'un calendrier de déploiement et du périmètre de déploiement. Exemple sur la région Centre et sur le département du Loiret, sur lesquels il y a eu donc une convention qui a été signée, et d'autres qui sont également à venir avec la communauté urbaine de Lyon et l'île métropole. Les collectivités intervenant dans un secteur concurrentiel, je le répète encore une fois, doivent nécessairement prendre en compte donc les contraintes afférentes à ce marché des télécoms. Et c'est notamment dans ce cadre que l'autorité de la concurrence a rendu un important avis au début de l'année 2012, suite à une demande d'avis de la commission de l'économie du Sénat concernant le cadre d'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des RIP et des réseaux à très haut débit. Cet avis, concrètement, est particulièrement instructif, puisque l'autorité de la concurrence a formulé un certain nombre de recommandations en vue d'éviter tout risque de distorsion de concurrence dans le cadre du déploiement des RIP très haut débit. On peut notamment relever trois points, même si évidemment ils ne sont pas exhaustifs. Ceux qui auront lu l'avis de l'autorité de la concurrence se rendront compte qu'il est particulièrement fourni. Je me focalise donc sur trois points, et je pense que je suis encore dans les temps. 2-3 minutes, mais écoutez, c'est parfait, merci. Donc le premier point relevé par l'autorité de la concurrence est une recommandation du fait que les opérateurs verticalement intégrés, ce qui vise Orange et SFR, fournissent aux collectivités territoriales, lorsqu'ils ont l'intention de candidater à un appel d'offres, les conditions dans lesquelles ils seraient susceptibles d'utiliser le réseau public en tant que fournisseur d'accès à Internet. Concrètement, l'autorité de la concurrence relève ici que les engagements de présence des fournisseurs d'accès à Internet, que sont par exemple Orange et SFR, c'est-à-dire les engagements à utiliser le RIP, exercent une forte influence sur l'équilibre économique de ces réseaux, en particulier le niveau de subvention publique lors du lancement des procédures pour la construction et l'exploitation du réseau. C'est donc le premier point d'alerte sur lequel l'autorité de la concurrence a mis le doigt. Deuxième point qu'on peut également citer, l'autorité de la concurrence recommande que notre régulateur, l'ARCEP, s'assure de la bonne marche et de la pleine participation des opérateurs aux travaux de normalisation nécessaires pour garantir l'interopérabilité entre les réseaux et systèmes d'information d'initiative publique et ceux des fournisseurs d'accès. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? L'autorité le décrit de manière assez claire. Elle indique que l'absence d'harmonisation des architectures et modalités d'exploitation des réseaux d'initiative publique, système d'information, processus de commande, gestion des incidents d'exploitation notamment, a pour conséquence que les fournisseurs d'accès ont tendance à privilégier les réseaux des opérateurs dont ils sont déjà clients, étant donné qu'ils sont déjà dans une compatibilité sur ces différents aspects, système d'information, gestion des commandes, etc., dont ils sont déjà clients sur les marchés du dégroupage ou des services de capacité, à savoir France Télécom et SFR. Donc là, clairement, l'autorité de la concurrence pointe du doigt un risque de distorsion par rapport à cette harmonisation ou cette absence même plus d'harmonisation. Un troisième exemple qu'on peut également citer par rapport à un risque qui est évoqué par l'autorité de la concurrence dans son avis du 17 janvier 2012, c'est l'utilisation d'informations privilégiées par les opérateurs du fait de leur position d'investisseurs privés dans les zones d'appel à manifestation d'intention d'investissement ou de délégataire de services publics. Concrètement, l'autorité de la concurrence recommande aux acheteurs publics de rendre disponible toute information utile en amont des procédures de mise en concurrence, avec le même degré de précision et dans les mêmes délais pour l'ensemble des candidats potentiels. Et, relève l'autorité de la concurrence, si les moyens à disposition des collectivités territoriales pour recueillir ces informations devaient s'avérer insuffisants, l'autorité recommande que le régulateur, l'ARCEP, soit mis en mesure d'imposer aux opérateurs et d'abord à France Télécom la fourniture de telles informations. Voilà le troisième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention par rapport à cet avis de l'autorité de la concurrence. En conclusion générale, les réseaux d'initiative publique intervenant une nouvelle fois dans un secteur concurrentiel, chaque acteur public comme privé doit par définition prendre en compte globalement les initiatives de l'ensemble des intervenants, notamment en matière de déploiement de fibre optique. Et c'est l'un des défis des réseaux d'initiative publique aujourd'hui, l'objectif in fine étant une bonne utilisation des deniers publics et un aménagement optimal du territoire français. Merci.
Je remercie M. Veve de son exposé extrêmement clair, très didactique.